Je vous propose de retrouver quelqu'un qui était avec nous il y a quelque temps, puis qui est parti un peu en vacances. Je me demande si elle était sur la côte basque, dans les Caraïbes ou quelque chose comme ça. Je veux parler de Sandrine Devigne. J'attendais que la vidéo démarre. C'est bon, vous pouvez aller la voir, elle est sur Facebook. Bonjour Sandrine.
Bonjour Serge.
Comment ça va?
Ça va bien, ça va très bien et je suis ravie d'être là.
Ah, je suis ravie. Ravie. Alors, on avait l'habitude de faire quelques petites chroniques autour du développement personnel, autour des blessures.
Oui.
De Lise Bourbeau, enfin de Lise Bourbeau de l'âme, non? Comment ça s'appelle?
Oui, oui, les blessures de l'âme, dont a beaucoup parlé Lise Bourbeau, entre autres.
Entre autres, et bien là, nous en sommes au couple cette année.
Oui, au couple, parce que je pensais que c'était un sujet qui était vraiment dans l'air du temps. Je vois autour de moi beaucoup de couples en demande, en recherche, un peu perdus même, parfois, et qui voudraient bien peut-être ou sauver leur couple, ou du moins essayer d'en vivre le bon côté et pas les mauvais.
D'accord. Bah, peut-être que si tout le monde va mal, c'est qu'il faut arrêter le couple.
Non, je crois que... Oui, c'est toujours... Vous, c'est votre genre. Je jette le bébé, l'eau du bain et tout. Non, moi, je jette l'eau du bain et je garde le bébé.
D'accord. Le couple ne se jette pas après l'usage. Mais alors, pourquoi parler du couple? Parce que ça concerne beaucoup de monde. C'est vrai qu'on l'a
exactement,
vu dans le salon de la Saint-Valentin l'année dernière. Tous les sujets autour du couple étaient pleins.
Bah oui, parce que ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et quand le couple va mal, notre vie va mal. Hein, et on est quand même très nombreux à vivre des difficultés. Alors pendant longtemps, on a cru qu'il suffisait de changer de partenaire pour qu'on puisse retrouver un autre couple qui marche mieux. Mais on se rend bien compte que c'est pas si simple que ça.
Après, on s'est dit, il suffira d'un signe, mais ça n'a pas marché non plus. C'est vrai que c'est très rare, hein, franchement, de rencontrer des gens qui me disent « mon couple se porte super bien » ou alors souvent ces gens-là, ils ont 60 ans de mariage, quoi.
En fait, moi j'avais vu une vidéo qui disait la jeune fille demandait à sa grand-mère « mais pourquoi, comment ça se fait que toi, ça fait 50 ans que tu vis avec grand-père et moi, j'arrive pas à un couple ?» Et la grand-mère dit « oui, mais moi, je suis du temps où on raccommode les choses. »
D'accord. Et dans Les Simpsons, Marge dit « une femme doit savoir ravaler sa colère toute sa vie. »
Non, là, je suis pas du tout d'accord.
C'est peut-être aussi pour ça qu'on tenait 50 ans.
Là, je suis pas du tout d'accord. À l'époque, oui, mais maintenant, il s'agit de pouvoir vraiment évoluer en tant que couple.
Alors, c'est une source de bonheur, de malheur.
Ben voilà, c'est ça. C'est qu'à la fois, le couple peut nous apporter beaucoup quand ça fonctionne bien, quand on se donne les moyens de fonctionner. Et en même temps, ben, c'est vrai qu'au quotidien, si le couple ne fonctionne pas, c'est l'enfer.
Ben oui, parce que chaque soir, on rentre à la maison et on se dit, oulala.
Quelle tête il va avoir ce soir.
Ah oui, c'est le Rocky Horror Show. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à la fin... Tout devient critique, tout devient saine, voilà. Tout devient contradictoire. Enfin, c'est pas cool
voilà.
du tout.
Et moi, ça m'a le sujet m'a interpellée parce qu'effectivement, j'avais déjà eu deux couples qui étaient partis en eau de boudin. Et à mon troisième couple, je me suis dit là, il va falloir faire quelque chose. Je peux pas juste reproduire à chaque fois les mêmes histoires. Donc puisque c'est les mêmes histoires, alors qu'en face, j'ai pas la même personne, c'est peut-être chez moi qu'il faut que je commence à aller chercher un petit peu où est la faille.
Introspection. Je vais en faire un titre techno, ça va être super. Donc, on recherche des solutions. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on est en couple, on recherche des solutions. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche, tous les bouquins autour du couple, comment vivre son couple, comment améliorer son couple, comment arrêter son couple.
Mais même ça, j'ai effectivement... Celui-là. Non, mais vous riez, mais dans mes... parce que je fais de la thérapie de couple aussi, et dans mes consultations, j'ai eu un couple qui est venu, et le fait d'avoir consulté, ça leur a permis de se séparer, je dirais, en douceur. Et pas dans parce que souvent c'est Hiroshima quoi. Hein.
Oui, mais je crois qu'on a, si je peux me permettre, encore un petit truc judéo-chrétien de la Bible. Ils ne formeront qu'une seule chair.
Mais parce que des fois,
comme si on devait se fondre dans l'autre. Et j'aime mieux la phrase de Khalil Gibran où il dit chacun mange un bout du pain, mais ne mangez pas sur le même quignon.
Oui,
quoi.
Et puis il parle aussi des deux piliers du temple qui ne peuvent pas, qui doivent regarder chacun dans la même direction, mais qui ne peuvent pas se rejoindre.
Il y a cette idée quand même de cultiver sa personnalité, son indépendance.
Oui, c'est la conclusion. Vous êtes en train de finir.
Ah, j'ai spoilé. D'accord, on y reviendra dans un instant. Psycho, on connaît un terme psychologique, qu'est-ce que ça veut dire tout
Alors, ça l'idée, c'est qu'effectivement, on va projeter à l'extérieur tout ce qu'on a à l'intérieur. Hein, ça, c'est la découverte de la psychologie moderne. Et donc, à partir de là, si notre couple extérieur va mal, eh ben, ça veut dire qu'à l'intérieur, notre couple intérieur n'est pas solide et n'est pas fluide. Alors, effectivement, on a tous un couple intérieur, un féminin, un masculin intérieur. Je crois que maintenant, ça, c'est à peu près...
Non, pas encore, hein, parce qu'on a déjà eu du mal, nous les hommes, à accepter la part féminine, soi-disant, qu'on avait à l'intérieur. Maintenant, c'est un couple entier, quoi. Ça devient compliqué. Non, mais c'est vrai, comment... c'est dur de faire la part des choses, là, de se dire « j'ai un couple en moi ».
Bah, c'est-à-dire qu'on a une partie masculine et une partie féminine, qu'on soit homme ou femme, en sachant que tout ce qui est masculin est de l'ordre de l'action, du pragmatisme, de l'extériorisation.
D'accord.
Et tout ce qui est féminin, hein, c'est le fameux yin-yang, là, tout ce qui est féminin, ça va être de l'ordre de l'intériorisation, de l'intuition, de la créativité, etc. Et si dans le temps tout ça était plus ou moins séparé, aujourd'hui on a conscience que tout ça est dans la même personne et ça forme un couple.
D'accord, puis ça nous soulage un petit peu. Non, c'est vrai. Bah, parce que ça évite de se dire je vais m'arranger avec mon couple, on essaye de s'arranger soi-même à l'intérieur.
Voilà, exactement. Si notre couple à l'extérieur ne fonctionne pas, c'est parce qu'à l'intérieur, on ne fonctionne pas.
Donc on doit chercher la réponse à l'intérieur.
On doit d'abord commencer à réparer ce couple-là.
D'accord. Mais bon, c'est vrai que quand même, ce couple-là dont vous parlez, Sandrine de Vigne, c'est un truc qui date depuis des millénaires.
Alors,
donc,
justement,
on a en nous un truc comme ça qui est sclérosé mais... complet, quoi.
C'est pas
avec
si simple que
idées,
ça, parce qu'en fait,
a priori,
ce couple-là n'a pas toujours existé sous la forme qu'on le connaît aujourd'hui. Mmh. Et c'est pour ça que c'est intéressant que je me suis penchée sur ce sujet de l'histoire du couple à travers les âges, parce que, comme l'a si bien expliqué Jung, toutes les mémoires sont quelque part en nous, dans notre inconscient. Mmh. Et donc, effectivement, cette histoire du couple, et en tout cas de la relation homme-femme, elle est en nous depuis... elle est dans notre inconscient. Et pour ça, je me suis intéressée à un livre d'une dame qui s'appelle Patricia D'Angeli, qui est psychothérapeute et qui a écrit un livre psychothérapie que je pense que vous êtes en train de passer à l'écran.
Bravo. Alors, il y a écrit « Guérir vos blessures intérieures avec la thérapie symbolique avancée ».
Voilà, elle guérit, elle a un peu le même genre de technique que moi, j'utilise aussi, qui est utiliser des images intérieures et de l'ordre du rêve éveillé. Et elle a, dans son livre, elle donne une histoire, une chronique quoi, de l'histoire du couple à travers les âges. Et je trouve ça intéressant parce que on n'a pas toujours fonctionné avec le couple traditionnel d'aujourd'hui, qui aujourd'hui est un couple de l'âge du patriarcat.
Ah oui.
Alors que Jung l'a très bien montré, la première ère humaine ça a été le matriarcat. Et dans cette ère-là, le couple ne fonctionnait pas du tout. D'ailleurs, il n'y en avait pas.
Ensuite, il y a encore des tribus, des peuplades que l'on dit premières, très peu nombreuses, où la femme dirige. C'est un matriarcat.
Mais du matriarcat pur, il n'y en a plus. Parce que, en fait, maintenant, les hommes, comme on va voir, ils sont quand même au fait de leur responsabilité dans la paternité. Ce qui n'était pas le cas à l'ère de... Mais on va y aller plus profondément après.
Allons-y.
Donc on commence par le matriarcat, après on va parler bien sûr... Le problème du matriarcat, c'est que c'était un féminin très fort, un masculin très faible. Et donc à un moment donné, les choses se sont inversées parce que ce masculin avait besoin de devenir à son tour fort. Le problème, c'est que le féminin est devenu très faible, donc ça a été l'ère du patriarcat. Mmh. Et aujourd'hui, on arrive un peu au paroxysme de ce patriarcat. Et donc, l'idée, c'est qu'on est peut-être, et on l'espère réellement, à l'aube de l'androgyna pour évoluer.
Alléluia.
Donc, si...
non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, on sent bien que dans notre histoire religieuse, la femme est coupable. Enfin, on charge quand même. C'est elle qui a croqué la pomme, c'est elle qui est responsable de bien des mots.
Mais tout ça, c'est l'histoire du patriarcat, en fait.
C'est en réponse au matriarcat initial.
Exactement. Exactement. D'accord. Tout d'abord, il y avait donc ce fameux matriarcat. Pourquoi matriarcat ? Parce que c'est la femme qui donne la vie. Mmh. C'est la femme qui enfante. Et tout au début, les hommes n'avaient pas fait tout à fait le lien avec ce qui se passait entre eux et les femmes. Et donc, on pensait que l'enfant venait par la déesse nature, hein, par la divinité. Donc, la divinité était forcément une femme. Puisque c'était elle qui avait la capacité à donner la vie.
C'est elle qui a fécondé, oui, c'est
et
ça.
Et oui, donc c'était la fameuse époque de la coupe. Et tout ça, c'est les débuts de l'humanité, 25 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à
coupe.
La coupe, le réceptacle.
D'accord.
Qui reçoit les énergies divines et qui enfante.
Le Saint Graal.
Voilà, le Saint Graal. Et donc, oui, mais quelque part, il peut y avoir un lien.
Bah oui, c'est ce que je me demandais. Mais bon, continuons.
Alors, en fait, cette déesse donc, nous permettait d'adorer la nature, la fécondité, d'être en communion avec les esprits. Mmh. Hein, et ce culte a duré au moins jusqu'à 7000 ans avant Jésus-Christ.
Alors, on le voit dans les artefacts, les vieilles sculptures où la femme est très ronde. Signe de la fécondité, justement, voilà. Et de la déesse mère.
De la déesse mère.
Mais c'est vrai qu'on retrouve ça en archéologie dans des très, très vieilles
Tout à fait.
Fouilles. Voilà,
et donc, dans cette ère-là, le système, il n'y avait pas de système familial, en définitive. Il y avait des prêtresses qui vivaient dans un temple, mmh. et régulièrement, à des moments cruciaux de l'année, comme les changements de saison, etc., il y avait une prêtresse qu'on nommait Lilith, qui allait chercher tous les hommes autour pour faire la fête, et on organisait d'énormes orgies sexuelles, parce qu'en fait, le sexe, comme il n'était pas relié à la procréation, il n'était relié qu'au plaisir.
On pensait que ça venait d'en haut, quoi.
Ça venait d'en
haut. C'était divin, enfin, qu'on était enceinte.
Voilà, qu'on pouvait... Voilà. Oui, bien sûr que c'était les... Alors, on suppose que les prêtresses, c'est-à-dire, étaient, elles, au courant. C'est bien pour ça qu'on organisait quand même des orgies. Mais les hommes n'étaient pas du tout au courant.
Alors, c'est sympa, cette idée d'orgie, parce que là, on n'est plus du tout dans le couple.
On n'est plus du tout dans le couple.
On n'est pas encore du tout dans le
couple.
On n'est
plus du tout non plus dans l'histoire de la famille, ni dans l'histoire de l'appartenance. Les enfants, quand ils naissent, ils sont élevés par toute la tribu des femmes.
D'accord.
Au sein du temple. Et les garçons, quand ils deviennent adolescents, eh ben, on les renvoie avec les hommes. On ne dit pas les pères, il n'y a pas de père. On les renvoie avec les hommes, et à ce moment-là, ils s'occupent de la chasse et de protéger les territoires, etc.
Alors là, on était très genrés, comme on dit, c'est-à-dire chacun son rôle, quoi. Les mecs, chasse, pêche, nature et découverte. Excusez-moi l'expression. Et les dames, c'était quoi?
Alors les dames, elles s'occupent du lien avec
la divinité,
avec
donc,
la divinité, la déesse, avec l'inconscient. Elles s'occupent des plantes, donc aussi bien pour la cuisine que pour la médecine, que pour la méditation. On a toutes les plantes hallucinogènes. Et voilà. Et chacun est bien à sa place. Et finalement, c'est une société qui tourne assez bien, où on est relativement heureux. Sauf que le problème, c'est que, comme je vous disais au début, si l'extérieur est la projection de l'intérieur, ça veut dire qu'à cette époque-là, le féminin intérieur était très très fort, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de liens avec l'au-delà, etc. Et par contre, un impact sur le réel assez faible, puisqu'un masculin pas très costaud.
D'accord, et donc elles planent, les nanas, quoi.
Elles planent, elles sont bien, la vie, pas de soucis, tout va bien.
Mais alors, comment ça s'arrête, tout ça? Parce qu'on passe au patriarcat,
après. Ça s'arrête jamais d'un point à un moment précis. Il y a une évolution qui se fait, et tranquillement, les hommes, ils commencent à ronger leurs freins et à trouver que quand même, les nanas, mais eux aussi, ils aimeraient bien un petit peu avoir... Et puis surtout, la société, elle a envie d'évoluer, elle a envie d'avoir des réponses. Parce que finalement, d'accord, les dieux, mais ils viennent d'où, ces enfants, et comment ça se passe? Et donc, un beau jour, la réponse arrive. Et la réponse, c'est qu'en fait, c'est les hommes qui sont à l'origine de ces enfantements. Mmh. Et là, ça change tout.
C'est dingue, ça. Non, mais j'avais jamais pensé que toute la partie procréation pourrait paraître magique.
C'est bien que c'est le sexe qui dirige la vie.
Moi, je pensais qu'on avait toujours su que ça venait comme ça. Mais c'est vrai qu'après tout, peut-être que...
Non, oui, c'était pas... D'ailleurs, chez les animaux, il y a quelques animaux, effectivement, où
le père joue un rôle
on sait qui est le père. Mais il y a la plupart des mammifères, on ne sait pas qui est le père... À moins qu'ils vivent en meute et qu'il y a un père pour toutes les femelles. Enfin bon, en tout cas chez l'être humain, c'était comme ça. Donc à partir de là, les hommes commencent à se dire « Mais attention, s'il y a un père, c'est que finalement, Dieu, on peut s'en passer, en tout cas. » Et puis finalement, il y a eu une supercherie au niveau de la déesse. Et finalement, tout doucement, la société glisse d'une déesse mère à un dieu, le père, qui n'a plus du tout la même, la même teneur, quoi. Parce que ce père, il va se dire qu'il faut absolument qu'il ait un contrôle sur le ventre de ses femmes. Parce que si c'est lui le père, il faut qu'il en soit sûr. Et donc, à partir de là, il faut qu'il commence à faire des règles. Des règles sur sur le contrôle de ses naissances, être sûr que ses bébés sont bien à lui, qu'il n'est pas en train d'élever le bébé d'un autre.
Ah oui.
Et voilà, et c'est là qu'on invente le mariage.
La propriété.
Et le couple, comme on le connaît aujourd'hui.
D'accord.
Voilà, l'appartenance.
Oui, c'est ce que j'allais dire, la propriété. Quoi.
La propriété,
donc,
tout
du
à
coup,
fait.
Femme à moi.
Femme à moi.
Okay.
Il y a forcément une espèce de guerre des sexes qui intervient, mais comme c'est les hommes qui physiquement sont le plus forts, les femmes, elles ne peuvent pas gagner.
Et c'est pour ça que du coup, cette Lilith qu'on voit au début, qui est plus ou moins positive au début,
ah oui,
devient la femme maudite dans notre histoire contemporaine.
Voilà, enfin, ouais. Donc l'Église, qui est en train de se créer, déclare que ce genre de femmes, c'est des diablesses, la sexualité débridée, c'est contre nature, et on sort de dans les tiroirs les femmes respectueuses, les saintes, les bonnes femmes, Ève, la mère, celle qui va ne se donner le droit au sexe que pour la procréation. Et
la femme soumise.
La femme soumise à...
De la religion catholique.
Enfin, à l'homme religions, qui représente Dieu sur le père.
On voit vraiment, la femme est au service de... C'est souvent dans les religions d'ailleurs, la femme est au service de...
Pas souvent les religions, ouais. Toutes ces religions sont patriarcales.
D'accord.
Voilà.
Avec un Dieu tout-puissant,
voilà.
Paternel, le père. Ah bah oui, puisqu'on l'appelle le père. Waouh, je comprends des trucs avec vous, Sandrine de Vigne.
Ah bah c'était l'objectif. Je trouvais que c'était intéressant cette histoire, parce que c'est vrai que... ça nous explique parfois peut-être pourquoi il y a des femmes qui tout à coup supportent pas de se trouver soumises. Ben, c'est juste parce que Lilith vit toujours en elle. Et à un moment donné, elles ont besoin de retrouver... moi, quand je regarde autour de moi les femmes aujourd'hui, elles ont un besoin de liberté qui est absolument inassouvissable.
Oui, enfin bon.
Enfin,
inextinguible.
Voilà. Mais c'est Lilith qui vit toujours encore en elle.
Bah parce qu'on est tous comme ça, non? On est libre,
bah quelque part. Ça fait partie de notre histoire.
Notre vraie nature, c'est la liberté. On
notre
fait un peu ce qu'on
nature,
veut.
Notre vraie nature, c'est la liberté.
Et là, on est coincé par des dogmes.
Oui, mais si vous voulez, le problématique, c'était que dans le matriarcat, les hommes n'étaient pas non plus vraiment libres, puisqu'ils n'avaient pas accès à cette partie féminine d'eux.
D'accord, donc c'est
pour ça
juste...
que ça ne pouvait pas fonctionner non plus à long terme.
Ok, c'est action-réaction.
Voilà, exactement.
Yin-yang.
Voilà. Donc,
maintenant qu'on a fait le yin, qu'on a fait le yang, on va sortir de ça peut-être.
Alors, les femmes, elles ont essayé de sortir de ça, elles ont commencé à se révolter, bien sûr. On connaît l'histoire d'Olam de Gouges qui a rédigé les droits de la femme en 1789, bon, qui n'a pas réussi à survivre à ça très longtemps,
elle
malheureusement.
Elle est symbolique, cette histoire, quand même.
Très symbolique. Moi, ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est qu'elle n'a été publiée qu'en 1986.
Oui.
Ce qui veut dire qu'on n'est pas toujours, on n'est toujours pas encore dans le changement, on est toujours encore... dans une tentative d'évolution, mais on n'y est pas encore.
Elle est symbolique. Oui, c'est vrai que l'âme de Gouges aussi symbolise aujourd'hui les droits de la femme, quoi, hein, puisque elle s'est dit, puisqu'on a écrit les droits de l'homme et de la femme, elle était partie avec des bonnes idées, puis finalement on l'a guillotinée.
C'est oui, dingue. On l'a guillotiné, puis on l'a oublié ouais. Pendant deux siècles.
Et puis même encore, je crois qu'il n'y a que depuis 5 ans, quelque chose comme ça, qu'une place porte enfin son nom à Paris.
Exactement.
Mais qu'en vérité, elle a complètement été effacée des registres, quoi.
Maintenant, Olam de Gouges, elle est la porte-parole d'un mouvement féministe qui finalement, aujourd'hui, on en voit bien les extrémités. C'est les femmes qui disent, bon, bah, nous, on ne veut plus s'occuper des enfants, on va embaucher des personnes pour garder nos enfants, on veut une carrière comme les hommes, on veut les mêmes droits, on veut pouvoir avoir une carrière. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'elles réclament surtout, c'est de devenir des hommes, quoi.
Enfin, non, pas aujourd'hui, mais il y a une époque où c'était vraiment la femme.
Moi, j'ai vu récemment un film sur les femmes qui rentraient dans l'armée, hein, parce que maintenant, elles ont le droit d'être militaires aussi. Hein, et elles rentrent. J'ai vu un film très récemment sur les femmes qui rentraient à l'armée, l'histoire de cette jeune fille, et elles s'en sont à prendre des médicaments pour ne plus avoir de règles, pour ne pas être dérangées avec ça quand elles sont en entraînement. Quoi.
D'accord, bon, on a bien vu chez Google...
ça s'appelle devenir un homme.
On fait congeler ses ovaires pour ne pas avoir de problème avec ça pendant la période où il faut qu'on bosse, les enfants, ça sera après.
On sera prêt et souvent d'ailleurs on se retrouve à avoir envie d'un enfant quand c'est trop tard.
Voilà, mais ce que je vous dis.
Mais heureusement la science vient tout le temps à notre secours.
Exactement. Mais moi j'avais l'impression qu'on était sortis de ce côté de la femme-homme. Maintenant on est quand même plus...
On est complètement dedans parce qu'on est dans une société patriarcale, quoi qu'on en dise. Parce que cette société-là, c'est une société qui favorise, elle est complètement présente dans notre système. Par exemple, dans notre système scolaire, où on favorise toujours les maths et les sciences, et où on pense que les arts, la psychologie, le français, la philo, c'est secondaire, c'est pas ça qui va nous permettre d'avancer dans la vie, etc. Donc on est quand même toujours à favoriser tout ce qui est masculin et à mépriser tout ce qui est féminin, y compris les femmes.
Mais c'est féminin, je crois, les femmes.
Mais non, mais les femmes aussi, elles méprisent le féminin en elles.
D'accord, on a carrément...
Et d'ailleurs, dans les couples qui viennent me voir en séance, je vois bien qu'il y a une grosse problématique autour de la femme, parce que la femme, on se retrouve avec des couples où il y a deux hommes.
Oui. Oui, parce que la femme est masculine. Parce que
l'homme n'est pas. L'homme ne veut pas devenir un féminin. Enfin, il essaye de garder un peu de masculinité.
Oui, mais aujourd'hui, on est quand même dans une période où c'est la guerre des genres, un peu.
C'est la guerre des sexes, oui. La guerre du pouvoir. C'est une guerre de pouvoir.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est que même dans les jouets, on a de moins en moins le droit de dire que c'est pour une fille ou pour un garçon. Les poupées doivent être pour tout le monde. Vous n'avez pas vu ça? On enlève le rose, on enlève. À l'école, on veut enlever cette.
Mais ça veut dire qu'on est en train de gommer le sexe. C'est-à-dire, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Et là, c'est pas exactement, c'est pas ça qui doit se passer. C'est pas ça qui doit se passer. On doit rester avec une part féminine et on doit rester avec un masculin. On doit rester avec un couple intérieur et pas une espèce de fusion où on a tout mélangé et finalement, on n'est plus ni dans le rose ni dans le bleu, on est dans le violet, quoi.
Bon, comment on s'en sort, là?
Eh ben, on s'en sort d'abord parce que, en sachant qu'on ne va pas revenir au matriarcat, ce n'est pas possible, on ne va pas leur faire le coup aux hommes de leur raconter qu'on est enceinte par le Saint-Esprit. Mais donc, il faut trouver un nouveau système. Et le nouveau système, c'est qu'effectivement, cette fois-ci, au lieu d'agir à l'extérieur d'abord, on va d'abord agir à l'intérieur. Et agir à l'intérieur, ça veut dire restaurer ce féminin à l'intérieur. Restaurer le masculin aussi, parce que il n'est pas que un père autoritaire, et il y a beaucoup de choses positives dans le masculin aussi, qu'on a peut-être oublié, qui sont pas que la prise de pouvoir, qui sont pas que l'autoritarisme, il y a l'autorité naturelle aussi. Et donc, restaurer du masculin positif, restaurer du féminin positif, et par ça, on va pouvoir de nouveau avoir un couple intérieur qui tienne la route. Et ça va nous permettre de tout doucement voir naître l'aube de l'androgynat. Alors l'androgynat, c'est pas une société où tout le monde serait homme et femme mélangés. Ça serait un monde où chaque membre du couple serait indépendant, serait fort, aurait en lui sa partie féminine et sa partie masculine, avec bien sûr une dominante féminine chez les femmes et une dominante masculine chez les hommes, parce qu'il y a quand même le fait qu'on arrive dans une enveloppe sexuée. Donc, si les hommes ont de quoi être un homme, c'est qu'ils doivent vivre la masculinité et les femmes vivre la féminité. Mais la féminité, le féminin, c'est pas la soumission.
Dommage. Ce sera la conclusion, merci, au revoir. Non, mais finalement...
grosso modo, c'est la conclusion quelque part, oui.
Non, finalement, l'avenir, c'est l'équilibre, quoi.
L'avenir, c'est l'équilibre.
Non, mais c'est vrai, yin-yang, il faut que ça s'équilibre. On le sait depuis des millénaires, mais.
Ça s'équilibre, mais il faut un tout petit peu plus de masculin chez l'homme et un tout petit peu plus de féminin chez la femme pour que les deux puissent se rencontrer.
C'est un vaste sujet, chère Sandrine Devigne. Nous avons multiplié par deux le score.
Ah, okay.
L'émission devait faire 8 à 10 minutes, on en est à 25.
On arrête.
On a arrêté là. Je rappelle quand même que c'est inspiré du bouquin Psychothérapie
de Patricia D'Angeli.
Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir, hein. Il est chez IFHE édition.
Oui. Voilà. Et puis on peut aussi venir prendre rendez-vous chez moi, faire un petit travail sur son couple.
Vous avez repris là?
Oui, je reprends.
Alors, si vous êtes intéressé par le travail sur soi-même, hein, les différents stades de l'évolution du couple, votre couple, vous-même, dans le couple.
Mais ça peut être juste un couple intérieur, pas forcément un couple avec un extérieur.
The inside couple, non, the couple within, le couple à l'intérieur, eh ben, n'hésitez pas à la contacter, Sandrine Devine. J'ai mis le lien vers son profil sur Facebook, sur la vidéo là, que vous voyez en ce moment. Et puis, je vous conseille aussi peut-être de l'appeler au 06 95 89 70 23. 06 95 89 70 23. Sandrine, merci beaucoup.
Merci, Serge.
On se voit bientôt.
Oui, oui, dès qu'on a refait un couple.
Que va dire le troisième?
Il n'a rien entendu.
Bon, d'accord. Merci, à bientôt. Bonne semaine.
Au revoir.